Ce soir, la réussite n'est pas une option. En un instant, les ombres regagnent la nuit. Le temps se suspend quelque temps et puis les explosions retentissent. En un instant, l'OTAN se retrouve mise en état d'alerte. Ses installations sont directement visées. C'est le branle-bas de combat au niveau international. Les cellules communistes combattantes viennent de réussir leur plus gros coup. L'OTAN comprend que l'affaire est très sérieuse. Pour réussir un attentat de cette envergure, les CCC ont dû se structurer, et plus encore, se professionnaliser. On est loin, très loin de l'amateurisme des premières fois. Pour localiser les pipelines, les CCC ont certainement dû se procurer des informations sensibles, secrètes, afin de pouvoir poser leurs engins aux bons endroits. Les questions s'accumulent. Les CCC, se sont-elles faites aider des organisations d'extrême gauche françaises ou allemandes dans cette entreprise? Et si c'était pire encore? Après tout, l'URSS aurait tout intérêt à déstabiliser ce qu'il se passe en Europe de l'Ouest. Le KGB se cacherait-il derrière le financement et la professionnalisation des CCC? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. L'homme le plus recherché du pays court toujours. Si la mouvance ne manque jamais une occasion de revendiquer ses actions, les forces de l'ordre, elles, se battent contre le vent. Dans les esprits, il paraît impossible que l'organisation ait pu mener seule son action d'envergure contre l'OTAN. La localisation précise des lieux visés, si sensible et secrète, qu'elle a dû profiter de complicités très haut placées. Il n'en est rien. En réalité, Carrette et ses comparses sont tombés un peu par hasard sur une conduite à haute pression, un jour qu'ils étaient en repérage, le tout grâce à un panneau indicatif qui renvoyait vers un simple numéro de téléphone, celui du sous-traitant qui s'occupe en Belgique des pipelines de l'OTAN. Ça paraît presque trop simple pour être vrai. C'est pourtant la version qui a toujours été défendue par les CCC. Quoi qu'il en soit, malgré des dispositifs on ne peut plus importants pour les arrêter, les membres de l'organisation se sont encore volatilisés. Partout dans le pays, on raille les forces de l'ordre et les autorités. Cette affaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut dire qu'entre les tueurs du Brabant et les terroristes d'extrême gauche qui se baladent impunément dans la nature, l'opinion a de quoi s'inquiéter. Les CCC vont frapper à nouveau. Alors qu'après ce coup de maître, prudence pourrait être de mise, afin que les membres puissent se faire oublier quelque temps, il n'en est rien. Le 15 janvier 1985, Carrette et ses complices réattaquent à Bruxelles. Une voiture piégée explose à Woluwe-Saint-Étienne devant un centre de l'OTAN. Une nouvelle fois, l'organisation mondiale est visée en plein cœur. Pire, pour la première fois, deux blessés sont à déplorer. Dans un communiqué, l'organisation annonce clôturer par cette action sa première campagne anti-impérialiste d'octobre. Il n'empêche, un cap est franchi avec ces blessés. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. 1er mai 1985, Bruxelles, devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique. Le plan des CCC est le même qu'au mois de janvier. Une voiture piégée qui explose devant le bâtiment visé. Mais cette fois, l'action se déroule en plein centre-ville. Alors la mouvance dispose des tracts, qui informent en lettres capitales les passants que le véhicule va sauter d'ici peu. En sus, Carrette passe un appel à la gendarmerie pour l'informer de la position de la voiture et de l'attentat à venir. Information que, pour une raison aussi inconnue que stupéfiante, les gendarmes ne communiquent pas aux pompiers. Les soldats du feu, eux, se rendent ainsi sur place sans attendre. Les précautions prises par les terroristes ne vont servir à rien. Lorsque le véhicule saute, les pompiers sont sur place. 5 d'entre eux sont soufflés, 2 sont tués, dont le chef d'équipe. Dès lors, les CCC deviennent une organisation meurtrière. Plus encore que des symboles, elles viennent de répandre la mort.
Les pompiers ont été projetés entre 5 et 10 mètres de hauteur, c'est pas difficile. J'avais perdu deux de mes collègues là, qui se trouvaient en dessous des arcades quand j'ai retrouvé seulement par après.
Hans s'enfonce dans la violence et tente de se justifier. De nombreux communiqués vont être émis à la suite de la mort de ces deux innocents. Les CCC accablent la gendarmerie de ne pas avoir effectué son travail d'information. Cette faille, cette faute, permet à Carrette et ses complices de se dédouaner de cette catastrophe qu'ils ont pourtant provoquée. Pour les terroristes, c'est très clair, ils ont prévenu. Ils n'ont rien à se reprocher et parlent de dommages collatéraux nécessaires. Dans l'opinion, la peur bleue se renforce un peu plus. Où cela va-t-il s'arrêter? D'aucuns pensent que le décès des soldats du feu va donner un coup d'arrêt aux attaques des cellules communistes combattantes. Eh bien, ils se trompent. Moins d'une semaine plus tard, un nouvel attentat est mené, toujours à Bruxelles, devant un bâtiment de la Direction supérieure de la logistique et des finances de la gendarmerie. Pas de victimes à déplorer. Et puis, c'est le retour des campagnes d'octobre, sous la dénomination Karl Marx d'abord. Pierre Ackermann ensuite. Les cibles: Intercom, Fabrimetal, Hanover Bank, la Bank of America. À Verviers, le 4 novembre 1985, un fourgon postal est attaqué et deux postiers décèdent. La police croit y reconnaître l'action des CCC, alors que le même jour, la mouvance a revendiqué deux attaques sur des banques bruxelloises. Mais cette fois, Carrette n'est pas responsable de la tuerie. C'est la bande à Amers qui est derrière le coup. Le pays continue de s'enfoncer dans une crise sécuritaire sans précédent. Le 5 novembre, le ministre de la Justice, Jean Gol, est présent dans les studios de la RTBF pour répondre aux questions du journaliste Alain Carlier.
La réalité est que l'œuvre de lutte contre le terrorisme est une œuvre de longue haleine dans plusieurs pays européens qui ont connu dramatiquement cette question, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme la France aussi, le Royaume-Uni. Cela a pris des années et aujourd'hui encore, ces différents pays sont occupés à poursuivre cette lutte contre le terrorisme sans obtenir nécessairement des résultats non plus très spectaculaires. Donc nous sommes entrés dans une période où en Belgique nous sommes confrontés à ce problème qui jusqu'ici nous avait épargné. Et il faut évidemment que et les forces de l'ordre, et la justice, et la population, et les mentalités s'adaptent à cette nouvelle situation. C'est pourquoi le gouvernement n'épargne aucun effort depuis un an, et plus particulièrement ces derniers jours, a encore pris de nouvelles décisions et a donné de nouvelles impulsions pour mettre hors d'état de nuire ces criminels, car je ne crois pas qu'on puisse les appeler autrement.
Le 6 décembre 1985, une nouvelle action d'envergure est menée conjointement par les CCC et un groupuscule français contre les installations d'oléoducs de l'OTAN. Ouais, encore les oléoducs de l'OTAN. Et l'enquête dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, elle avance à pas feutrés. Voilà plus d'un an que Carrette est recherché et qu'il peut néanmoins continuer à mener ses forfaits sans être inquiété. Les enquêteurs ont retrouvé ses empreintes sur les lieux d'une attaque, permettant de le relier formellement au groupuscule. Hormis cet indice, les forces de l'ordre vont mettre du temps avant de localiser leurs suspects. C'est la nouvelle attaque contre l'OTAN qui va faire bouger les choses. Les réseaux d'informateurs s'activent à Charleroi. L'un d'entre eux prévient la police, 10 jours après l'attentat. Deux complices de Carrette viennent d'être repérés. Pour les forces de l'ordre, c'est l'occasion ou jamais de mettre en place une filature. Reste à savoir si, enfin, elles vont avoir de la veine. Et pourquoi pas mettre en état d'arrestation l'ennemi public numéro un. Les CCC ne se doutent pas qu'elles sont traquées, mais l'étau se resserre. Décembre 1985, Namur. Dans le cuic du centre-ville, la foule va et vient comme à son habitude. Il est tôt, mais déjà, les fours et les bacs d'huile tournent à plein régime. Frites, burgers, l'immuable quotidien des travailleurs du fast-food suit son cours. Au fond de la salle, une table de quatre se fait discrète. Ils n'ont pris que des cafés, n'échangent que quelques mots épars. Ces visiteurs de passage passent inaperçus. Ça n'a pas duré. Police judiciaire, sûreté de l'État, police communale s'infiltrent en nombre dans le resto. Ils savent qui ils viennent chercher. Les cafés sont encore fumants que le quatuor se retrouve le nez collé contre la table. Oh, ce ne sont pas des clients lambda, non. Les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur les têtes pensantes des CCC. Recherchés depuis plus d'un an, Pierre Carette s'est fait griller. Et il n'est pas le seul. L'accompagne dans sa chute Bertrand Sassois, Didier Chevollet et Pascal Van de Heerde. La police, enfin, peut se targuer de faire un sacré coup. La Belgique va enfin pouvoir respirer. Les terroristes d'extrême gauche se retrouvent derrière les barreaux. Reste à comprendre une chose essentielle, leur motivation. Aussitôt conduits à Bruxelles, les quatre mis en cause sont présentés devant une juge d'instruction. Elle décide de les placer sous mandat d'arrêt. Inculpés, deux sont déférés à Saint-Gilles, les deux autres à Forêt. De multiples précautions sont prises. On craint que des complices externes ne cherchent à les faire libérer. Ce qui serait, faut bien le dire, une catastrophe que l'opinion ne laisserait certainement pas passer. Dès l'incarcération des prévenus, la police va avoir plus de facilité à remonter le fil de leur parcours. Ils découvrent dans un appartement de Charleroi un stock d'armes de guerre impressionnant. Et ce n'est qu'un début. Entre décembre 1985 et janvier 1986, trois autres planques sont mises au jour à Liège, Bruxelles et Charleroi. Chaque fois, des armes et des archives permettent aux enquêteurs d'aller encore plus loin. À Bruxelles, c'est le propriétaire du flat qui a reconnu son locataire sur les photos diffusées par la presse et par la RTBF.
Et je vous dis, la photo m'a mis la puce à l'oreille. Mmh. Et j'ai forcé la porte. J'ai fait la trouvaille que vous connaissez.
Oui.
Hein, tous les dossiers, tout ça, enfin. Et bien sûr, j'ai prévenu la BSR directement. Alors, ce mercredi-là, donc il y a eu exactement 8 jours.
Alors la BSR garantit l'anonymat. Vous n'avez pas peur, vous, de venir parler comme ça devant une caméra, vous n'avez pas peur de représailles?
J'ai pas l'impression que je dois m'attendre à des représailles. En plus, je n'ai pas donné ce soir, hein, en fait. Il était arrêté et c'est ça qui m'a fait ouvrir son appartement.
Les membres du quatuor sont faits comme des rats, ils le savent. Par voie de presse, le 22 janvier 1986... ils avouent leur appartenance au CCC et appellent à continuer la lutte. En mai, nouveau coup de com' avec une grève de la faim entamée par les prévenus. Elle va durer 43 jours. Chaque fois, l'objectif est le même. Faire parler, prendre de la place dans l'opinion. À l'automne 1988, s'ouvre le procès des CCC devant une cour d'assises du Brabant qui prend des allures de forteresse. Une importante délégation de pompiers de Bruxelles a fait le déplacement pour l'occasion.
Nous sommes présents parce que nous voulons marquer notre solidarité avec les veuves et pour montrer au public que nous n'oublions pas nos deux camarades qui ont disparu, mais qui sont toujours présents parmi nous. En mai 85, nous allions au feu et nous avions un ennemi commun. C'était le feu et nous savions le combattre en face. Mais depuis ce jour-là, nous avons un deuxième ennemi, les terroristes qui nous attaquent dans le dos. Et c'est pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes-là, que nous sommes tous présents.
Les peines prononcées sont exemplaires. La justice ne fait pas dans le détail. Les quatre accusés écopent de la même sentence. Travaux forcés à perpétuité. Diminués par une nouvelle grève de la faim, entamée afin de manifester contre leurs conditions de détention, tous les membres des CCC ne sont pas présents au moment du verdict, le 21 octobre 1988. Le procès a permis de mettre en lumière les racines du mouvement et son idéologie. Son but est clair, détruire le capitalisme tout en poussant vers la révolte afin de mettre en place une société socialiste. Leur ligne idéologique, le marxisme-léninisme. Ils se réclament donc des Mao, Marx et autres Lénine. Les CCC vont rester longtemps en prison. Trois d'entre eux sortent en 2000. Pierre Carette, lui, doit attendre 2003. Mis sous contrôle judiciaire, la patrouille les rattrape rapidement. En 2008, retour derrière les barreaux pour le leader des CCC et son lieutenant. Sassois est même arrêté pour appartenance à une organisation terroriste. Il est soupçonné d'avoir intégré le groupuscule qui se réclame des brigades rouges italiennes. C'est très clair. À l'exception de Didier Chevollet, qui fait amende honorable en 1995, les anciens CCC cherchent à faire perdurer la lutte, celle pour laquelle ils ont commis de nombreux attentats. Quoi qu'on en dise, les CCC sont, malgré une volonté de se dédouaner de certaines responsabilités, un mouvement meurtrier. Ils ont entraîné la mort de deux pompiers et les blessures de plusieurs autres innocents. Une terreur qui aura duré plus d'un an, dans un contexte comme la Belgique n'a certainement jamais connu dans son histoire récente. Entre les tueurs du Brabant, Patrick Amers, les CCC et tous les autres scandales politiques, économiques et judiciaires, le royaume a mis du temps à se remettre de ses années de plomb. Les agissements des CCC risquent de faire parler encore longtemps, c'est indéniable. C'est à se demander si, au fond, l'un des objectifs premiers de Carette et consorts, devenir l'un des principaux sujets de l'actu nationale, n'a pas été atteint. Mais ça, c'est un autre débat.